Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, j'ai la chance d'avoir pu faire venir Guillaume Cavaillé qui nous parle en direct depuis Gaillac. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mathilde.
Alors bonjour Tom qui est aux manettes.
Bonjour et c'est avec un grand plaisir Mathilde.
Alors nous allons commencer tout de suite par un morceau que nous a choisi Guillaume et nous en parlerons juste après. Rock de chez nous, interprété par Trad and Jazz, dans lequel vous jouiez Guillaume Cavaillé. Alors, vous avez choisi ce morceau parce qu'il ramène loin, loin dans le temps, si j'ai bien compris.
Oui, il y a même plus ancien, mais j'ai pas retrouvé. Après, si c'était sur mini disque, j'ai plus le lecteur.
Ça aurait pu être sur vinyle, hein, remarquez.
Sur vinyle aussi. Non, j'ai pas fait de vinyle encore. Non, ça c'est Trad and Jazz, c'était un groupe que j'avais au collège. Au collège, et puis c'était le groupe, le fameux groupe dans le garage du batteur avec batterie, basse, clavier. Et moi j'avais électrifié mon violon avec une pédale multi-effet où j'utilisais distorsion, auto-wawa, c'était que des compos.
D'accord, alors est-ce que vous pourriez nous présenter les musiciens de ce groupe si vous vous en rappelez?
Oula. Alors, il y avait Tristan Marler au piano, au clavier, Quentin Lebert à la batterie, qui venait juste d'apprendre la batterie. La basse, c'était, j'ai oublié son prénom, mince.
Donc, monsieur.
J'ai zappé son prénom. Et son papa était musicien, d'ailleurs, et c'est lui qui lui apprenait à jouer de la basse. Et puis, nous, on lui montrait aussi quelques plans. Et moi-même, voilà. Et là, on a enregistré ça dans le garage, justement, de la répète, là où on faisait les répètes une fois par semaine, avec un petit enregistreur Nicolas Panek à l'époque, qui est un copain, qui est toujours un copain et qui
enregistre toujours
ses études de son.
C'est génial. C'est Nicolas Panek qui a enregistré ça.
C'est
super.
Qui a fait ça, ouais.
Et qui enregistre toujours et qui est sonorisateur, etc. Alors j'essaye aussi de lui de l'attraper pour venir en studio nous présenter son travail parce que bon là vous avez commencé avec du jazz, mais quand même je tiens à préciser aux auditrices et auditeurs de Radio Présence que nous allons rester dans la musique traditionnelle aujourd'hui, puisque vous avez appris le violon à l'âge de 3 ans, si je me souviens bien.
C'est ça, 2 ans et demi, 3 ans.
Ouais. Et que depuis, vous avez fait plusieurs heures de musique traditionnelle. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe quand on commence le violon à l'âge de 3 ans.
Ah ben déjà, c'est pas nous qu'on décide. Enfin, c'est une volonté des parents. Là, c'était dans une académie à Perpignan, dans les Pyrénées orientales, et c'était par le biais de qu'on s'appelle la méthode Suzuki. Donc c'est une méthode qui apprend à l'oreille. C'est très proche en fait de ce qu'on fait dans la musique traditionnelle, mine de rien. On apprend d'abord à bien écouter. On est censé aller dans des concerts acoustiques principalement.
Mais donc à 3 ans, hein, oui. J'insiste bien. C'est-à-dire que les enfants... Il ne faut pas croire qu'ils n'entendent rien, au contraire, ça enregistre beaucoup à cet âge-là.
C'est ça, et puis pour vraiment développer l'oreille, pour entendre toutes les fréquences de la musique. Et après, c'est des cours qui se font par mimétisme. On regarde vraiment ce que fait le professeur, et puis on imite le professeur. Et les parents assistent, donc du coup, eux, ils apprennent plus vite, ils assimilent plus vite. Enfin, des détails que les enfants ne peuvent pas assimiler très vite. Et après, on reproduit à la maison aussi avec les parents, ce qu'on a appris en cours.
D'accord, donc il y a quand même une aide des parents nécessaire. Oui. C'est un cours finalement qui est parents et enfants.
C'est ça, il y a une implication des parents. Ouais.
Avec cette méthode Suzuki.
Voilà.
Et est-ce que cette méthode, vous savez si elle est toujours utilisée dans certaines écoles?
Ah oui. Ah oui, partout. Enfin, partout. Non, pas partout, mais oui, ça existe encore. Il y a ma fille qui a commencé le violon il y a quelques années. On a trouvé justement une prof qui faisait ça. Il y a des formations, en fait. On peut se former à cette méthode et après la transmettre. Non, elle existe toujours, oui.
Très bien. Parce que vous, quand même... donc nous, on s'est rencontrés à l'âge de 17 ans, hein, Guillaume, dans un festival... Et à cette époque-là, j'avais été impressionnée par le niveau de musique que vous aviez déjà. Enfin, ça sert, quoi, de commencer très tôt aussi.
Oui, c'est possible. Alors, en fait, on s'en rend pas forcément compte parce que on suit notre chemin. Et effectivement, donc j'ai commencé par l'école, par l'académie où j'ai appris la méthode Suzuki. Et puis après, j'ai fait des écoles de musique pour ensuite rentrer en CHAM, donc ces classes à horaire aménagé de musique au niveau au collège en fait, en sixième. Et je tiens à préciser que le conservatoire m'a un peu sauvé parce que bon, tout ce qui était école de musique, j'étais pas vraiment très heureux dans ces établissements. Mais le conservatoire, il y a eu une autre approche de la musique et ça m'a beaucoup plu. Et en parallèle, je faisais déjà de la musique traditionnelle, en fait.
Et du jazz, apparemment.
Pardon ?
Et du jazz aussi ?
Alors, du jazz, oui, c'est venu un peu plus tard. Mais j'ai beaucoup aimé écouter des violonistes comme Jean-Luc Ponty ou Didier Lecoud et Grappelli, tous ces gens-là, qui m'ont pas mal influencé. Et j'aimais beaucoup le blues quand j'étais petit. J'étais très très jazz blues et ouais, du coup je me suis je sais pas, ça me parlait. C'est pour moi le blues, c'est comme une musique traditionnelle, je sais pas, il y a une espèce de authenticité, une force dans cette musique qui me parlait autant que une musique traditionnelle occitane ou irlandaise, quoi.
Alors justement, la musique traditionnelle, c'est par le biais de votre mère que vous êtes rentrée dans ce monde-là.
C'est ça. Vous êtes bien renseignée, dis donc.
Et oui, j'ai une petite oreillette où on me dit les informations.
C'est ça. Oui, exactement. Mais ma mère était dans le folk à l'époque. Elle a soi-disant vu aussi danser la bourrée chez mes grands-parents quand il y avait les vendanges ou les moissons. Et elle a baigné un peu là-dedans. Puis après, elle s'est mise dans le folk et dans le mouvement folk. Et du coup, moi, je suis né un peu là-dedans aussi. Je dansais dans le ventre de ma mère. Je dansais déjà dans le ventre de ma mère, on va dire.
Et vous écoutez aussi.
Et j'écoutais beaucoup. À l'époque, on allait souvent dans des balles qui étaient en acoustique. Et donc, j'ai vu cette ambiance du mouvement folk, entre guillemets, qui m'a séduit par la suite. Quand j'étais petit, je réalisais pas, mais j'ai entendu, j'ai vu les parents s'éclater en faisant cette musique, en dansant cette musique. J'ai vu cette ambiance qui était très chaleureuse, très... Il y avait, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était attirant, quoi. Réconfortant. De voir les adultes s'éclater comme ça. Quand on est enfant, c'est, je sais pas, ça m'a beaucoup parlé.
De penser, en fait, que les parents peuvent jouer aussi, peut-être.
Voilà, aussi.
Qu'il n'y a pas qu'un côté sérieux.
Ça chanter, ça danser, ça jouer.
C'est assez intéressant parce que du coup, dès petit, on vous demande d'écouter la musique. Vous parlez de blues, vous parlez de jazz, vous parlez également, j'imagine, de classique si vous êtes rentré au conservatoire. Oui. Alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les personnes que j'ai reçues en musique traditionnelle au micro disent que c'est plutôt les écoles de musique et la musique traditionnelle qui les a libérées par rapport au classique et le conservatoire, alors que vous dites que c'est l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé au conservatoire qui a fait que ça vous a, entre guillemets, sauvé ?
C'est le directeur, je pense, de M. Tosi, Daniel Tosi, qui n'est plus directeur du conservatoire maintenant, il a pris la retraite. Mais c'était quelqu'un, je pense, d'assez bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé très très bien. Et il s'est entouré de profs, d'une équipe enseignante qui était magnifique. Tous les profs que j'ai eus, c'est pas ce qu'on voit dans, enfin, la caricature qu'on a du conservatoire. Moi, j'ai pas ressenti ça à Perpignan, pas du tout. Quand on me dit à Toulouse, oh là là, les profs, c'est horrible, ils sont hyper sévères, machin, tout ça. Mais non, nous, c'était vraiment, c'était tout le contraire. C'était parce que aussi, dans ce conservatoire, il y a eu très tôt, un département de musique traditionnelle, il y a eu très tôt un département de musique jazz, de musique actuelle aussi. Avec Lazarevitch qui était là, un super guitariste.
Oui, en effet.
Et maintenant, il y a de grands jazzmen qui ont fait, qui découlent justement de ces classes de jazz de Perpignan. Enfin, c'était un conservatoire qui bouillonnait, quoi. Il y avait vraiment, on était bien dedans. Il y avait plein de projets. On a accompagné des grandes vedettes avec la chorale, avec l'orchestre, avec. On faisait pas que des cours de musique dans une salle avec le professeur. Enfin, on apprenait un instrument et après, on savait qu'on allait en faire quelque chose. Et ça, c'est génial.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que ce conservatoire, finalement, il a ouvert. Il n'est pas resté fermé sur des pédagogies très conservatorisme, je veux dire, très... conservateureuse et qui a ouvert vers d'autres types de musique et qui permet du coup l'apprentissage de façon plus ouverte avec les musiques du monde, etc. Alors on va écouter un morceau que vous avez composé. Je vous laisserai en parler juste après le morceau.
Présence à Figeac 97.7.